With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle pastille. Aujourd'hui, ce sont les Cincinnati Bengals qui sont à l'honneur. Et pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi.
Hey, salut Victor, on est bien là, la draft arrive.
Ah, ça arrive, oui, là on est à quelques jours de l'événement. Cette émission vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Pour le Super Bowl, chaque équipe reçoit 108 ballons, 54 d'entraînement et 54 pour le match. Ça fait un ballon par joueur, dis donc. Et le ballon de Duke est disponible sur le site decathlon.fr. Donc on rentre dans le vif du sujet. On a une équipe, c'est assez rare pour le signaler dans cette fin de pastille, qui n'a pas besoin de quarterback, puisqu'ils en ont eu un l'année dernière avec Joe Burrow au premier choix. Mais il y a encore beaucoup de besoins pour une équipe qui a recruté pas mal de monde. Explique-nous quels sont les besoins prioritaires pour Cincinnati pour cette saison 2021.
Ben justement, c'est l'attaque, puisqu'ils ont pris Joe Burrow l'année dernière. On a vu avant qu'il se blesse quand même qu'il aurait le niveau. Donc quand un jeune quarterback comme ça, talentueux, il faut absolument l'entourer. Donc l'entourer, c'est quoi? C'est déjà la ligne offensive. Ils ont fait venir Riley Reiff à la Free Agency. C'est un très bon ajout, beaucoup mieux que ce qu'ils avaient avec Bobby Hart. Il faudra voir comment Jonah Williams va revenir de sa blessure. Mais il faut quand même blinder cette ligne offensive pour ton quarterback. Les cibles aussi, notamment tight end, ils ont personne. On voit cette année qu'il y a un phénomène au poste de tight end, donc pourquoi pas un Kyle Pitts. Et puis les receveurs, il y a quand même du Devonta Smith et puis surtout du Jamar Chase, avec qui justement Joe Burrow a une connexion. Toujours l'attaque également, parce que Giovanni Bernard est parti, donc Joe Mixon est un super running back, mais il faut quelqu'un pour jouer avec lui dans un comité. Donc du coup, voilà, forcément c'est l'attaque. Moi, la défense, elle me donne quand même quelques assurances. Il y a DJ Reader qui va revenir, ils ont drafté des jeunes linebackers l'année dernière, ils ont signé Trey Hendrickson aussi, des Saints, donc ils ont un très bon, très très bon backfield défensif dont on parle très peu, mais qui est très très bon. Je pense que la priorité, c'est vraiment l'attaque.
Ah, ils ont peut-être peut-être la meilleure paire de safety de la ligue. Non, je m'enflamme un peu, mais une des meilleures paires en tout cas. C'est sûr que c'est une équipe qui défensivement est beaucoup plus mature qu'offensivement. Et donc, dès le choix numéro 5, toi, tu pars sur le meilleur ami de Joe Burrow, Jamar Chase.
Oui, c'est ça. Ben, écoute, en fait, tous les deux, on a fait le même constat, c'est-à-dire premier et deuxième tour, il faut y aller sur cible et protection. Alors, on a fait le même constat, mais du coup, on vous présente deux scénarios différents. Et moi, sur le mien, je pars sur Jamar Chase avec le choix numéro 5. Alors, c'est pas vraiment un besoin. Il y a déjà Tyler Boyd qui est un très bon receveur. Il y a déjà T. Higgins qui est lui également un super receveur. Mais si tu ajoutes Jamar Chase, je veux dire, voilà, on se rappelle très bien de Joe Burrow à LSU quand il a été champion. Il y en avait trois de très haut niveau. Il avait donc Jefferson qu'on a vu l'année dernière avec les Vikings. Il y avait donc Jamar Chase. Il y avait aussi Terrace Marshall qui va être drafté cette année. Donc si tu lui ajoutes un troisième receveur de haut niveau, mais pour le développement de Joe Burrow, c'est juste extraordinaire. Et puis en plus, voilà, ils ont une connexion tous les deux. Alors ok, ça ne sera pas le même système offensif, ça ne sera pas le même niveau non plus, mais ajouter un Jamar Chase à Joe Burrow, ça serait extraordinaire pour cette attaque.
Oui, ça fait sens. Moi, en effet, J'ai pris une autre direction, mais c'est un choix qui va surprendre personne, hein, puisque globalement, c'est les deux joueurs qui ressortent à peu près tout le temps dans tous tes mocks, soit Jamar Chase, soit Penei Sewell. Donc Penei Sewell, on en a parlé et reparlé, c'est le tackle le plus attendu de cette draft, l'ancien d'Oregon, qui a opt-out en 2020, mais qui est juste un monstre physiquement, techniquement. C'est le joueur que tu peux pas le bouger. Il est mobile pour sa taille. C'est incroyable d'être aussi mobile en étant aussi gros entre guillemets, aussi massif, on va dire. Les mains sont puissantes, les pieds sont vifs, l'équilibre du corps est bon. Penei Sewell, c'est globalement un tackle comme on en voit rarement. Et il est vraiment dans une autre draft, dans une draft type Eric Fisher, il aurait pu finir premier de la draft, ça aurait choqué personne. Ah. Donc clairement, c'est deux talents extraordinaires, et l'un ou l'autre, ça sera un renfort de poids pour l'attaque des Bengals. Ah, après, oui. Tu l'as dit, il y a Ryder Reef, donc est-ce que ça veut dire qu'il va commencer à droite? Pourquoi pas? Moi, je le ferais commencer à gauche, mais c'est pas inenvisageable.
Mais oui, Penei Sewell, effectivement, c'est vraiment le choix sûr par excellence. C'est un joueur, quand même, il faut rappeler que dès sa saison freshman, ce qui est quand même assez rare, hein, surtout pour ce poste de left tackle, dès sa saison freshman, il était titulaire avec Oregon. Et je veux dire, demandez à Justin Herbert ce qu'il pense de Penei Sewell, et puis vous verrez sa réponse. C'est un joueur extraordinaire, qui en plus, comme tu dis, est extrêmement puissant. Vous pouvez prendre la liste de tous les tackles qui jouent aujourd'hui en NFL, à part Tristan Wirfs des Buccaneers, il n'y en a aucun qui est aussi puissant que lui, qui a ce même gabarit, et en même temps cette mobilité-là, une mobilité pour la passe, parce qu'il bouge bien en protection, mais également pour le jeu de course, il est extraordinaire. Et puis c'est un leader, il a une mentalité irréprochable. Lui, c'est vraiment le tackle que tu prends pour les 10 prochaines années. Donc oui, ça sera un choix très très solide, oui.
Oui, je pense qu'on est d'accord. Et du coup, toi, comme t'es parti receveur, tu pars ligne au deuxième tour.
Oui,
et
exactement.
Tu prends un joueur qui est connu depuis longtemps, mais qui peut-être, à l'image des Adebo ou des Davis dont on a parlé, est un peu en désamour avec les mock drafts, c'est Alex Leatherwood de Alabama. Donc, qui est un joueur polyvalent et une valeur sûre, on peut l'appeler comme ça.
Ah oui, c'est vraiment une valeur sûre. Je veux dire, 4 saisons à Alabama, déjà, tu as une valeur sûre. Hein. Je veux bien que la NFL, ce soit le niveau supérieur, c'est vrai. Mais 4 saisons à Alabama, tu as une vraie valeur sûre. Et puis, moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce désamour pour Alex Leatherwood. Je comprends pas, parce que, comme tu dis, il est polyvalent. Il a joué guard, il a été bon. Il a joué left tackle, il a été bon. Il est athlétique, il a des longs bras, il a une bonne mobilité. Il est hyper puissant pour le jeu de course. En protection, il est plutôt bon. Demander à Mac Jones d'ailleurs, c'est vraiment un très bon joueur. Et puis oui, tu vois, si dans un scénario il partirait Jamar Chase au premier tour, si tu prends Alex Leatherwood au deuxième, ben écoute, ça te fait 3 joueurs avec Leatherwood, Reef et Jonah Williams, et du coup tu peux combler tes 2 postes de tackle et un qui passera en guard. À voir au camp d'entraînement qui jouera tackle gauche, qui jouera tackle droit, qui jouera guard, mais les 3 peuvent le faire. Les 3 ont cette polyvalence. Reef peut jouer tackle gauche ou droit, et Jonah Williams et Alex Leatherwood peuvent jouer tackle ou guard. Donc du coup, tu as 3 joueurs hyper solides, et puis tu vois au camp comment ça se donne, et tu as une très bonne ligne offensive pour Joe Burrow.
Ouais, bon, Jonah Williams, il est avec André Dillard dans la All Infirmary Team, surtout pour l'instant, mais on va espérer pour lui que ça s'arrange, parce que là, pour l'instant, on n'en a pas vu grand-chose. Moi, du coup, je suis notre logique. J'ai pris un lineman, du coup je vais prendre un receveur. Je vais parler d'un joueur dont on ne parle pas forcément non plus beaucoup, c'est Elijah Moore. Donc Elijah Moore qui est joueur de Ole Miss, qui est clairement... Alors certains vont dire c'est un slot receveur. Oui, bah Justin Jefferson aussi c'était un slot receveur, on a vu ce que ça a donné. Mais alors c'est vraiment une machine, c'est explosivité 2000%. Il est rapide. Il est soudain, il est fiable, parce qu'il fait très 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 peu de drop, pour le coup. Il a 2,3% de drop rate, ce qui est vraiment peu. Globalement, à Ole Miss, l'attaque vivait et mourait par lui. Il est en screen, par exemple, pour soulager un peu Burrow. Vous lui donnez la balle, il peut faire des choses assez incroyables. il peut gagner 40 yards juste par des mouvements et se défaire des défenseurs. Donc c'est vraiment un receveur que j'aime beaucoup. Et je pense que le deuxième tour, c'est sa valeur. Parce que bon, ce qui va te desservir, c'est qu'il a toujours joué dans le slot, qu'il n'a peut-être pas une dimension physique extraordinaire et que les gens vont se demander dans quel schéma il correspondrait ou quoi. Mais pour moi, c'est un super ajout pour Joe Burrow.
Ah oui, je te rejoins à 100%, à 1000%, à 1 million de pourcents. Elijah Moore, c'est un joueur extraordinaire. Et puisqu'on parle d'Ole Miss, son université, on disait exactement la même chose de Edgy Brown. Et on voit très bien ce qu'il fait avec Tennessee. Alors oui, c'est pas le même gabarit, mais c'est un joueur dans le slot, mais qui est hyper fiable, qui court des bons tracés, qui a beaucoup de vitesse. On l'a vu encore à son pro day, il a beaucoup de vitesse. C'est un très très bon joueur. Et puis en plus, voilà, dans cette escouade des Bengals, T. Higgins est grand, Tyler Boyd est grand, Odentet est grand, tu rajoutes un petit comme ça, un vif comme Elijah Moore, mais ça serait formidable pour Joe Burrow. Ah oui.
Ah bah Ole Miss c'est devenu une machine à produire des receveurs, hein, parce que tu as parlé de Brown, mais on peut parler aussi de Dickie Metcalf, donc c'est vraiment devenu une usine à receveurs.
Ouais.
Au troisième tour, toi du coup tu donnes encore une cible, tu as déjà donné Ja'Marr Chase, tu donnes encore une cible à Joe Burrow, un tight end, d'ailleurs un tight end, mi-tight end, mi-receveur, Brevin Jordan de Miami.
Oui, c'est ça. Brevin Jordan, comme tu dis, c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il jouait pas du tout, même sur la ligne, comme un tight end, il jouait vraiment comme un slot receveur ou même comme un receveur écarté. Parce que c'est un joueur qui est très très rapide, très explosif. Une fois qu'il a le ballon en main, il a des cuts incroyables. C'est un joueur qui est très jeune, il est de juillet 2000, il n'a pas encore 21 ans, et pourtant il a déjà joué 30 matchs à l'université, dont 29 comme titulaire. Je veux dire, il a marqué 13 touchdowns. J'ai vu une stat intéressante, 52 de ses 73 réceptions en 2019 et 2020 ont donné un first down. Voilà, c'est le joueur, tu lui lances le ballon, il va gagner la première tentative. 63% de ses yards après réception, je veux dire, c'est incroyable. Tu lui lances la balle et il va gagner énormément de yards après réception. Alors après, oui, effectivement, c'est un bloqueur plutôt moyen. Mais bon, finalement, Cincinnati, ils n'ont pas trop de tight end. Ils ont Drew Sample, ils ont CJ Uzoma, ils ont signé Thaddeus Moss. Mais justement, c'est des tight end plutôt costauds qui vont être de bons bloqueurs. Ajouter un Brevin Jordan là-dedans, et ça prend une toute autre dimension.
Non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Moi, je continue en attaque aussi. Mais alors, moi, je veux bien de la ligne, donc c'est bien. Là, pour le coup, on ne s'était pas tellement concerté. On est vraiment différents dans l'approche, mais complémentaires. Moi, je pensais à Ben Cleveland au troisième tour.
Ah,
donc,
oui.
Ben Cleveland de Georgia. C'est un joueur qui a mis du temps à se développer en université, hein, puisqu'il a eu des problèmes académiques. Il s'est fracturé, je crois, c'était le tibia, si je ne dis pas de bêtises. Mais une fois qu'il est devenu titulaire, on a vu ce que ça donnait, et ça donne des très belles choses. C'est une belle masse physique, hein. C'est pas Deontay Brown dont on a parlé précédemment, mais ça reste un très gros joueur.
Ah, c'est un cube, c'est.
Ah, c'est, ah ouais. Oui, globalement, c'est sûr que c'est. Il est dans la catégorie des cubes. Globalement, ça surprendra personne, du coup, il est très puissant, hein. Pour le bouger, il faut se veto. Il va aider au jeu de course, parce qu'il peut créer des espaces. Alors, bon, c'est finalement un joueur qui a une expérience du coup limitée, vu les blessures et son parcours, mais globalement, potentiellement, c'est un titulaire pour les 10 prochaines années en NFL. Donc c'est le genre de joueur, tu ne prends pas tellement de risques à le sélectionner.
Non, c'est clair, c'est là une bonne affaire au troisième tour, ça. Ah oui, effectivement. Parce qu'il peut quand même apporter en protection, surtout dans un schéma de zone. Mais en plus, pour la course, par contre, voilà, il est extraordinaire de puissance avec ses mains, avec son bas du corps. C'est vraiment un joueur qui va ouvrir de sacrées brèches pour la course. Donc oui, effectivement, Ben Cleveland, très très bon joueur.
Bon, et on a adressé la ligne. On a adressé des cibles. Il serait temps pour notre sleeper de donner un nouveau meilleur ami à Joe Mixon. Et donc, c'est ce que tu fais avec Elijah Mitchell. Donc, les Elijah sont en force dans ce podcast. Elijah Mitchell, donc le running back de Louisiana. Explique-nous pourquoi, pour toi, il serait un bon complément de Joe Mixon.
Ben déjà, je vais te donner une stat. Il a joué 37 matchs à l'université. Il a marqué 37 touchdowns. Voilà, c'est le genre de gars constant, il te marque un touchdown à tous les matchs. Il est très rapide, on l'a vu à son pro day, il a couru en 4,33, et puis il est surtout très très athlétique. Et puis ce qu'il y a de bien avec ce coureur aussi, c'est qu'il n'est pas du tout cramé, même s'il a joué longtemps avec Louisiana, c'était un comité avec très ragasse. Donc avec ses courses, avec ses réceptions également, il faut savoir que c'est un joueur qui, en tout et pour tout, a touché 576 ballons avec Louisiana, et il a commis 4 turnovers, c'est-à-dire drop ou fumble. 4 turnovers sur 576 ballons. Donc si je résume, c'est un joueur qui est rapide, qui est athlétique et qui est hyper fiable. Donc il a tout du running back numéro 2, voire numéro 1 avec un bon développement. Donc moi je trouve qu'ajouter un Elijah Mitchell à cette attaque en complément avec Joe Mixon, ça serait létal pour les Bengals de Cincinnati.
Non, mais je te rejoins. Je pense d'ailleurs que c'est un sleeper plutôt haut, hein. Moi je pense qu'au cinquième tour, il sera parti. Et donc du coup, même si l'adversité est pas folle dans ce qu'il a pu rencontrer, je pense que c'est un joueur qui va plaire. Et oui, je pense qu'il peut devenir en tout cas un numéro 2 de luxe. Titulaire, on verra, mais numéro 2 de luxe, c'est sûr.
Ah oui.
Moi, j'ai pris une autre direction, un joueur clairement pour le fond de la draft, hein. Par contre, là, on n'est pas au niveau d'Elijah Mitchell. Je prie Rakim Boyd de l'Arkansas, ancien de Last Chance U, pour ceux qui aiment bien l'émission, qui a eu un parcours compliqué, blessé beaucoup. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus puissant, mais c'est un joueur explosif, qui a une bonne vision, qui est patient.
C'est un
C'est un
coureur
joueur.
aussi.
Pardon?
C'est un coureur lui aussi.
Oui, tout à fait. J'ai peut-être pas précisé, tu as raison. Je veux dire, il est explosif, il a une bonne vision, il est patient. Je pense que c'est un joueur qui peut, s'il se développe, devenir un joueur utile dans un comité. J'en fais pas, contrairement à Mitchell, j'en fais pas un potentiel titulaire. Mais ça peut être un coureur utile dans un comité, et au septième tour, tu prends pas un gros risque en sélectionnant.
Non, effectivement, oui. C'est pas le même profil qu'Elijah Mitchell, mais effectivement, au septième tour, ce serait un bon running back de complément. Oui, je te rejoins.
Bon, mais on a fait le tour. Je vous rappelle que l'émission du jour était présentée par Wilson, la marque qui fabrique de Duke, le ballon officiel de la NFL. Je vous ai dit, hein, pour le Super Bowl, chaque équipe reçoit 108 ballons, 54 pour l'entraînement et 54 pour le match. Donc, grosse production, et le ballon Wilson de Duke est à retrouver sur decathlon.fr. Je te remercie, Jean-Michel.
Eh, merci Victor.
On vous souhaite une bonne journée, et on va s'occuper de la franchise de Grégory Richard demain, puisqu'on s'attaquera aux Atlanta Falcons.
Allez, ciao tout le monde.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.